Chapitre 26. La fille pleure. Dans ce noir, je ne peux pas la voir, seulement l'entendre. Je devrais faire quelque chose. Bouger, parler, l'aider. Je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est tout. J'ai battu en retraite jusqu'au mur du fond. Je me suis assise sur le matelas, aussi loin d'elle que possible. Et j'ai pris mes genoux entre mes bras. Je suis trop assommée pour réagir. Je sais comment prendre soin de moi. Tu as mal? Tu as faim? Tu as soif? Tu ressens un malaise? Non? Alors tu vas bien. Mais non, je ne vais pas bien, me dis-je, éperdue. J'ai de l'entraînement et de l'expérience. Je me suis préparée, mais jamais je n'ai vu venir une situation pareille. Je suis censée m'occuper de moi, me battre pour sauver ma peau. Pas gérer ça. Elle pleure tout bas, plus des geignements que des sanglots. C'est ce qui arrive quand on est à bout de force et déshydraté. Quand on a déjà épuisé sa réserve de vraies larmes et qu'il ne nous reste plus que ça. Je reconnais ses pleurs. Moi aussi, j'ai pleuré comme ça. De l'eau. À un moment donné, j'ai lâché la bouteille. Je devrais retourner la chercher. Je devrais retourner aider cette fille. Pas facile. Atrocement difficile, en fait. Mais pourquoi? C'est moi qui collectionne les photos de personnes disparues. Moi qui me suis désignée sauveteuse en chef de Stacy Summers. Et maintenant, devant la possibilité de lui porter réellement secours, je n'ai pas envie que ce soit elle. Je n'ai pas envie qu'elle croie que je pourrais la sauver. Je n'ai pas envie qu'elle ou qui que ce soit d'autre dépende de moi. Cette fille est une ressource. Est-ce que c'est une pensée froide, cynique? En tout cas, elle me traverse l'esprit. Cette fille est une ressource. Ses vêtements, les objets qu'elle pourrait avoir dans les poches, ses épingles à cheveux. Et qui sait? Si elle jouit de davantage de liberté et de privilèges, peut-être une boucle de ceinture, une mine de possibilités. Alors il faut que je m'approche, que j'aille au contact. Cette fille est une ressource, et les victimes doivent utiliser toutes les ressources à leur disposition. Je bascule à quatre pattes et je reprends ma reptation de chenille arpenteuse, le poids du corps sur les coudes, dans le noir. Elle est tombée là où je l'ai agressée, devant la porte dérobée, qui est désormais refermée, verrouillée. Plus aucun signe de sa présence. Le mur est redevenu un simple mur, et la fille en larmes est le seul indice qu'il s'est passé quelque chose. « Stacy ?» murmurai-je en avançant vers elle. Elle ne répond pas, continue à gémir. Mes mains liées rencontrent la bouteille d'eau, la renversent sur le côté. Je m'arrête, cherche à tâtons autour de moi jusqu'à l'attraper entre mes doigts. Je continue mon chemin et bute sur la fille. Une jambe, en pantalon, un jean. Elle porte de vrais vêtements, contrairement à moi avec mon absurde nuisette. Cette découverte me donne de l'espoir. Si elle a un pantalon, elle a peut-être aussi une ceinture. Avec une boucle métallique, ce serait l'idéal. Oh, toutes ces serrures qu'on peut crocheter, ces miracles qu'on peut accomplir avec l'ardillon d'une boucle de ceinture. « Stacy !» répétais-je tout bas. Toujours pas de réponse. Il me paraît inconvenant de la fouiller comme si elle était un suspect sur une scène de crime. D'un autre côté, elle refuse de me parler. J'essaye de réfléchir à l'attitude à adopter. Le dernier jour, quand les policiers ont investi la chambre d'hôtel, telle une invasion de fourmis noires se déversant par la porte et les fenêtres, dans quel état est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je voulais? J'ai pleuré. Ça, je m'en souviens. Mais ça me paraît à des années-lumière. Comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, dans une autre vie. Il y avait là un agent du FBI, une femme. Elle n'arrêtait pas de répéter « Florence Dane ». Ce nom me laissait perplexe. Il me chatouillait la mémoire, comme si j'avais dû le connaître. « Flora, a-t-elle encore essayé ?» Je crois que j'ai répondu à ce moment-là. Je crois que j'ai dit « Je m'appelle Molly ». Ils ont échangé des regards, des réactions à mi-voix. La femme a posé une main sur mon épaule. « Je suis l'agent spécial Kimberly Quincy, FBI, vous êtes en sécurité maintenant, d'accord? En sécurité. J'ai frémi quand elle m'a touchée. Et ensuite, je suis devenue incroyablement immobile. Je n'étais ni sous le choc, ni transportée de joie, ni soulagée. J'étais méfiante. Je me blindais en prévision du coup à venir. Elle a lâché mon épaule et m'a proposé de l'eau. Elle m'a présenté les deux ambulanciers qui voulaient m'examiner. « Est-ce que vous voulez appeler votre maman ?» m'a-t-elle demandé. Mais je n'arrivais à penser qu'à Jacob. Ce pauvre, pauvre Jacob. Il y a tout ce sang sur mes mains. J'étais incapable de répondre aux sollicitations de cette Kimberly. Je n'ai pas parlé, ni crié. Je suis simplement restée prostrée. Ce jour-là, et le suivant, et le suivant. Une fille qui était née et qui avait grandi dans un cercueil en pin. Je ne suis pas cette fille-là, me rappelais-je à présent. Mais dans ce cas, je dois être l'agent du FBI, cette Kimberly. Alors quelle était son attitude? Elle parlait d'une voix ferme, agissait avec autorité. Elle m'a accompagnée pendant que je passais une kyrielle d'examens médicaux et qu'on me posait les questions indispensables, et jamais elle n'a cessé de me parler, que je lui réponde ou non. C'était une fille normale, me dis-je. Elle parlait normalement, elle agissait normalement. Voilà ce qu'elle essayait de me donner. Après 472 jours, elle m'offrait la normalité. Je respire à fond et je me lance. Je m'appelle Flora. C'est moi ? Ou ma voix s'est brisée en prononçant mon nom ? Je le répète, rien que pour moi cette fois-ci. Je m'appelle Flora, pas Molly. Je suis désolée de t'avoir agressée. Est-ce que c'est vrai? Peut-être, mais je ne sais pas encore qui elle est, ni quel rôle elle joue dans cette histoire. Gardons-nous des conclusions hâtives. Je vais essayer de t'aider. Je suis désolée si ça te fait mal, mais il faut que je sonde la plaie. J'ai de l'eau, tu en veux? Ses pleurs se sont taries. Elle a l'air de m'écouter. Sa respiration est toujours irrégulière et tremblotante. Le choc? La peur? Tout est possible. Elle ne répond ni par oui ni par non. Elle pousse un gémissement. Je vais te toucher, lui dis-je. Je suis désolée. Tu ne veux sans doute pas qu'on te touche. À l'époque, moi, je ne voulais pas. Mais je ne peux pas te voir. C'est la seule solution que j'ai pour savoir ce qui ne va pas. Je déteste le sentiment d'impuissance que j'éprouve. Je ne vois pas quoi faire d'autre. Elle ne dit rien, mais au moins elle se tient tranquille. Est-ce que c'est un oui muet ou le nom d'une femme folle alliée? Je me demande si l'agent du FBI s'est posé la même question il y a 5 ans, si elle a eu l'impression d'avoir affaire à un chat sauvage plutôt que de sauver une fille terrifiée. Ses pieds sont nus. C'est ma première constatation. Elle porte un jean, mais ni chaussures, ni chaussettes. La preuve qu'elle n'a pas le droit de quitter la maison? Je m'accorde un bref instant pour regretter l'absence de lacets. Toujours la question des ressources. Mais ça n'a pas de sens de regretter ce qu'on n'a jamais eu. Ensuite, je remonte mes mains liées le long de sa jambe, mes doigts légers sur la couture du tissu assoupli par l'usure. Un vieux jean. Son préféré. Je tire un peu dessus pour me rendre compte, sans savoir si c'est déplacé ou non. Mais comme je m'y attendais, ce pantalon est trop large pour elle. Si c'est celui qu'elle portait le soir de son enlèvement, elle a perdu beaucoup de poids ces derniers temps. Elle doit être allongée sur le côté parce qu'ensuite, j'arrive à la courbe douce de sa hanche. Elle prend une brève inspiration entre ses dents et je devine que je ne dois pas être loin de la blessure. Quand la porte s'est ouverte et que je me suis jetée sur elle, je visais le ventre. Je voulais l'étriper. J'espère pour nous deux que j'ai plutôt touché la cage thoracique. Lorsque j'arrive à la ceinture de son jean, ça me fait bizarre. Et mes joues s'empourprent dans le noir. Un jean taille basse, râpé sous mes doigts. Même si je ne cherche pas à frôler sa peau nue, bien sûr, ça se produit quand même. Elle frissonne, se raidit, et je rougis de plus belle. Je dois me forcer à continuer. J'ai besoin de savoir si elle porte une ceinture. En cuir, tressée, peu importe, pourvu qu'elle ait une boucle. Raté. Bon, il faut y aller. La plaie. Je ne dois pas en être loin. et je ne suis plus gênée, mais carrément pétrifiée. Je ne vois rien. Rien de rien. Et si, en touchant un morceau de bois, je l'enfonçais davantage? Si j'aggravais sa blessure? Je ne suis pas taillée pour une telle situation. Je ne me suis pas entraînée à l'affronter. J'étais censée être seule. Seule, je suis bien. Tandis que là, je suis mal à l'aise. Ce qui n'est pas la même chose que d'aller bien. Mes mains tremblent comme des feuilles. Je les tiens au-dessus d'elles, mais sans me résoudre à passer à l'action. Je vais lui faire mal. Je vais aggraver son état. Je vais découvrir une fois pour toutes l'ampleur des dégâts que j'ai causés. Soudain, ses doigts se referment sur les miens. Elle ne dit pas un mot. Il n'y a que le bruit de sa respiration, non pas calme et régulière, mais saccadée et apeurée. Elle attrape mes mains liées et les descend vers son flanc, qui est une vraie mare de sang. La plaie n'est pas jolie jolie. Pas besoin de lumière pour le savoir. Je reconnais les coulures, leur toucher poisseux et leur odeur de rouille. Du sang mêlé à des morceaux de bois. Des échardes, à vrai dire. Le pain est un bois trop tendre pour faire une arme efficace. Comme je l'espérais, je ne l'ai pas touché au ventre. C'est au niveau des côtes que j'ai frappé. Malheureusement, au contact des os, le bois a déclaré forfait et s'est désintégré en une multitude de fragments. Sous mes doigts, j'ai plus l'impression d'avoir un porc-épic qu'une plaie à l'arme blanche. La fille pleure de nouveau, avec les hoquets tremblants et les frissons de quelqu'un qui souffre beaucoup. Je me fige. Je suis incapable de faire ça. L'agent Kimberly n'a jamais eu à le faire. Tout ce sang, tellement de sang il y a 5 ans, sur mes mains, mon visage, mes vêtements. Mais ce n'était pas mon sang à moi. Je me balance d'avant en arrière. Non, ce n'est pas le moment. Des larmes roulent sur mes joues. Non, personne ne va pleurer. Je suis une battante. Une battante. Une battante. Et Samuel lui-même m'a dit que les survivants ne devaient jamais regretter ce qu'ils avaient pu faire dans le passé. « Je vais retirer les morceaux de bois, » dis-je. Elle m'a lâché la main. Elle tremble des pieds à la tête, clairement en proie à la souffrance. Je m'efforce d'être aussi douce que possible. Mais étant donné que je dois trouver tous les fragments à tâtons, impossible de ne pas irriter la plaie. La fille inspire entre ses dents. Gémit, mais reste passive sous mes mains maladroites. Pour autant que je le sache, je ne fais aucun bruit, mais j'ai un goût de sel dans la bouche, donc des larmes doivent couler sur mes joues pendant que je pince et retire avec précaution un fragment après l'autre. Certains sont très petits, presque des échardes. Il y a 2 morceaux plus épais et volumineux. Des esquilles. Est-ce qu'elles sont plus douloureuses? Est-ce que ça fait une différence au point où on en est? Je l'ai poignardé avec 2 morceaux de bois tenus ensemble. Le résultat final est une bouillie sanglante à mi-chemin entre la vilaine écorchure et la pelote d'épingle. Je n'arrête pas de me dire que ça ne peut pas marcher. Dans le noir, je ne vais jamais réussir à tous les retirer. Seulement les plus évidents. Et comme le sait quiconque a eu une écharde, même le plus petit corps étranger logé sous la peau peut s'infecter et provoquer une inflammation. Mais je ne vois pas quoi faire d'autre, alors je continue, les bras tremblants de fatigue nerveuse à force de surveiller tous mes gestes, les joues raidies par le sel. 5, 10, 20 minutes. Mais finit par arriver le moment où, passant la main sur la plaie, je ne sens plus rien qui dépasse. Elle a sûrement encore des bouts de bois dans la chair. Comment pourrait-il en être autrement? Mais dans ces conditions, sans même une lampe torche pour m'éclairer, je ne peux rien faire de plus. Il nous faudrait de la lumière. Et des pansements, et de l'eau oxygénée. Et tiens, pourquoi pas un vrai médecin plutôt que moi? Je palpe doucement la plaie. J'ai l'impression qu'elle mesure 5 cm de large et 10 cm de haut. Mais peut-être qu'elle est superficielle? Ou alors c'est que je prends mes désirs pour des réalités? La fille gémit de nouveau. Elle frissonne. Est-ce que tu as mal ailleurs? Je ne sais pas quoi chercher d'autre, quoi faire d'autre. J'ai les doigts poisseux, pleins de sang, son sang. Elle ne répond pas. Je continue à parler tout haut, à prendre les décisions pour 2. Je crois qu'on devrait laisser la plaie à l'air libre pour l'instant. Plutôt que de déchirer encore ma nuisette en satin pour la bonne cause. Je ne pense pas que ce soit profond, mais ce n'est pas joli. Il faut que ça sèche, qu'une croûte se forme. Et puis j'ai peur d'enfoncer davantage des échardes qui seraient restées sous sa peau si j'essaye de panser la blessure. Elle ne décroche toujours pas un mot. J'ai de l'eau. Je vais en verser un peu sur la plaie, pour la laver. Est-ce un gaspillage de ressources? Aucune idée. J'ai voulu lancer une offensive contre mon ravisseur. Bien sûr, c'est cette fille que j'ai frappée à sa place, mais mon geste de défi a dû le surprendre et peut-être le mettre en colère. Il pourrait me couper les vivres. Fini les repas livrés à domicile et autres cadeaux emballés dans des cercueils en pain. Ce qui me conduit à une autre question. Les mains de la fille. Est-ce qu'elle est ligotée comme moi? Et pourquoi a-t-elle été envoyée dans cette pièce? Je termine ce que j'ai commencé. Je débouche la bouteille d'eau et j'en fais couler un mince filet sur le flanc de la fille. J'économise. C'est plus fort que moi. J'ai appris certaines leçons au prix fort. J'en dépose un peu sur mes mains. Je les frotte l'une contre l'autre et je les essuie du mieux que je peux sur la moquette mince. Je rebouche la bouteille et je m'assois sur mes talons. Il n'y a aucun moyen de faire ça poliment, alors j'y vais. Je finis de la palper dans le noir. Un haut en coton, peut-être un t-shirt. Le torse, le cou, le visage, d'épais cheveux mi-longs. Ses bras, que je suis jusqu'à ses poignets menottés. Et ensuite, parce que j'ai une certaine expérience de ces choses-là, je suis le contour des menottes et je sens des croûtes récentes et rugueuses qui s'entrecroisent avec les reliefs lisses d'anciennes cicatrices. Toi aussi, tu as été kidnappée, il y a un bon moment. Suffisamment longtemps pour que tes premières plaies aient eu le temps de cicatriser. La fille ne bouge pas, ne parle pas. Est-ce que tu es Stacy Summers? Rien. Je connais tes parents. J'ai rencontré ton père. Ils n'ont pas perdu espoir. Ils continuent à te chercher. Un petit hoquet. La surprise? La stupeur? Un sursaut d'espoir? Je m'appelle Flora. J'attends. Les doigts toujours sur ses poignets. Et là, juste au moment où j'allais perdre espoir, je sens ses mains se refermer sur les miennes. Molly. Murmure-t-elle dans le noir. « Je m'appelle Molly. » Et 7 ans plus tard, ces seuls mots suffisent. Mon sang se glace dans mes veines. Mes mains tremblent, se replient sur ma poitrine en un geste protecteur. Et je sais, et je me souviens, et je sens. « Non !» murmurai-je. Mais cette pauvre fille, ma douleur, mon châtiment, a enfin retrouvé sa voix. Je m'appelle Molly. 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 Molly, je m'appelle Molly. Je ne regarde pas vers le miroir sans teint. Je ne regarde pas vers ce mur lisse où je sais maintenant que se trouve une porte. Je regarde la moquette. Je regarde tout au fond de moi. Et je me dis, après toutes ces années, mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait?